Et tu fais quoi dans la vie ? Une question à laquelle on répond souvent, mais pas foncièrement. Un temps d'échange à la rencontre de professionnels qui nous parlent de leur métier, de leur parcours, de la réalité du terrain. Une façon de découvrir ou redécouvrir une profession, et pourquoi pas même se découvrir une vocation. Bonjour et bienvenue dans « Et tu fais quoi dans la vie ?», l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui nous racontent leur métier. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Perrine.
Bonjour Flavie.
Bonjour à toi et merci pour ta présence. Pour commencer, je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Qui es-tu ?
Alors, je suis Perrine Guyot, j'ai presque 42 ans. J'ai grandi dans la région, mes parents habitent Farin. Voilà, c'est pas très loin de Villefranche. La plupart de ma famille est encore installée ici. Et depuis quelques années, je vis dans le Beaujolais, enfin quelques années, un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai traversé la Saône et je me suis installée dans le Beaujolais.
Très bien. Et Perrine, tu fais quoi dans la vie ?
Je suis guide conférencière.
C'est chic. Ouais. Je vais te demander, s'il te plaît, de nous raconter un petit peu ton parcours. Comment on devient guide conférencière et quelles ont été les grandes étapes pour en arriver là ?
Alors, j'ai un parcours plutôt atypique, en fait. J'ai un peu pris des chemins de traverse souvent. Donc, je suis arrivée au métier de guide. J'ai commencé par des études d'histoire de l'art. J'ai fait un master d'histoire de l'art spécialisé en architecture du 19e siècle. Donc, c'est quand même très précis. Sauf que quand on arrive sur le marché du travail avec un métier, enfin, une formation aussi précise, c'est pas toujours évident. Et l'histoire de l'art apporte une grande culture, une ouverture d'esprit aussi. Mais pas forcément de travail, on va dire. Beaucoup de compétences, mais pas forcément de travail. Et en parallèle, je me suis formée en licence aux langues, c'est-à-dire que j'ai fait ma troisième année de licence à Séville pour apprendre l'espagnol. Et quand je suis rentrée, je me suis rendue compte que l'anglais était hyper faiblard. Donc mon master 1, je l'ai fait en 2 ans, et la deuxième année, j'étais en Irlande du Nord pour enseigner le français et pour réapprendre l'anglais, parce que vraiment, j'avais les bases scolaires. Enfin, c'était pas suffisant, on va dire. Donc voilà, et après, je suis revenue et j'ai fini mes études, donc le master. Et là, ça m'est apparu comme une évidence que je voulais être guide. Et finalement, j'avais déjà posé tous les jalons, parce que quand j'étais étudiante également, tous les étés, je faisais visiter le château de Fléchères, qui est dans mon village natal. C'est là que j'ai tout appris. Les techniques de guidage, comment se comporter, comment est-ce qu'on rebondit sur les questions, etc. Et donc, c'était une évidence. Sauf que j'avais pas de carte de guide. Donc il aurait fallu que je reprenne des études pour devenir guide. Donc j'ai dit non, c'est pas la peine. Donc j'ai cherché autre chose et à ce moment-là, j'ai trouvé un poste pour être accompagnatrice de voyage scolaire à l'étranger. Donc j'ai fait ça, c'était génial. Pendant 2 ans, j'accompagnais des groupes scolaires en Angleterre, en Irlande, en Écosse, en Espagne. Ça a été hyper formateur aussi. Parce qu'en fait, quand on part dans un voyage comme ça, il y a la théorie, il y a le programme et il y a la réalité. Et en général, ça colle jamais. Il y a toujours un décalage et c'est génial. Parce qu'il faut trouver des solutions hyper rapidement, il faut être hyper réactif. Et ça, c'est vraiment un aspect qui me plaît énormément.
Tu aimes les aléas.
Exactement.
C'est pas si courant.
Non, c'est vrai. Mais surtout, trouver des solutions très rapides aux aléas pour qu'au final, tout se passe bien. C'est vraiment ça. C'est être dans l'action. C'est ça que j'aime beaucoup. Et puis, au bout d'un moment, je suis revenue. J'ai réussi à avoir ma carte de guide parce que j'ai envoyé tous mes diplômes, puisqu'au final, j'en avais quand même pas mal, à la directe. Et en échange, j'ai reçu ma carte de guide par la poste. Ce qui est un parcours assez atypique parce que normalement, il faut faire une licence pour être guide. Mais étant donné que j'avais appris l'anglais, j'avais appris l'espagnol, que j'avais guidé pendant des années à l'étranger, en France, que j'avais un master qui est un niveau supérieur au niveau des études à la licence, j'ai pu avoir ma carte de guide. Depuis 2013, je suis officiellement guide conférencière.
Félicitations.
Merci.
Donc tu vois, tu nous apprends aussi quelque chose. Je ne savais pas qu'il fallait une carte de guide. Donc c'est le Graal pour pouvoir...
Alors, pour guider dans les musées, c'est-à-dire que toi, si tu veux, tu peux faire une visite de ville. Après, pour guider dans un musée, il faut absolument avoir une carte de guide. Okay. Ça permet d'avoir quand même un contrôle, on va dire. Après, c'est pas toujours aussi simple. C'est-à-dire qu'il y a des très bons guides qui n'ont pas de carte et il y a des guides moins bons qui ont une carte. C'est aussi une question de personnalité, c'est une question de transmission des savoirs, c'est une question d'attitude, d'aimer les gens. C'est vraiment ça. Enfin, c'est un ensemble. C'est pas seulement connaître l'histoire de France date par date sur le bout des doigts. C'est la faire revivre aux personnes que tu as en face de toi.
Et c'est un renouvellement ou c'est quelque chose qu'on a à vie?
Ah non, je l'ai à vie. Donc c'est bon, je peux guider à vie.
Donc c'est un passe-droit aussi qui accorde quand même de la légitimité.
Exactement, c'est aussi une reconnaissance d'études, de validation d'acquis pour le coup, et qui donne une légitimité.
D'accord. Donc c'est vrai que j'allais te demander, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit je veux faire ça, mais on a l'impression que tu as été quand même prédestiné à ça et que tout a amené vers ce chemin-là progressivement.
Exactement. Et tu vois, pendant le Covid, ça, on ne pouvait pas guider. Enfin, c'était compliqué pour beaucoup d'entre nous. J'ai essayé de me dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Et en fait, je ne suis pas capable de faire autre chose. Enfin, c'est vraiment, j'ai la chance de me lever le matin et de me dire je fais le métier que j'aime, quoi. Enfin, avec ses contraintes, avec ses avantages. Mais c'est un pur bonheur depuis 13 ans maintenant de guider, de rencontrer des gens. Parce qu'en fait, c'est l'échange aussi. C'est-à-dire que je fais découvrir le Beaujolais aux personnes qui viennent. Mais en parallèle et en contrepartie, ils me font découvrir leur culture aussi. C'est-à-dire que parfois, ils vont me raconter des bouts de leur vie. Et ça, c'est, pour moi, c'est précieux. C'est extrêmement précieux.
Et justement, pour rentrer maintenant concrètement en immersion dans ton quotidien, peux-tu nous dire à quoi ressemble une journée ou une visite type avec toi ?
Alors, une journée type, je vais te prendre un exemple avec un autocariste, par exemple, et les croisiéristes avec lesquels je travaille beaucoup. Je les récupère au bateau, je les accueille au car, et ensuite, je me présente, je leur présente le programme. On part. Si on vient visiter le Beaujolais, eh bien, je vais faire une présentation historique, culturelle du Beaujolais. Ça dépend aussi si ce sont des Français ou des étrangers, parce qu'on n'a pas forcément le même bagage culturel. Et ensuite, je vais leur parler, dans le Beaujolais et en Bourgogne, c'est la même chose également, à partir de l'époque de l'année à laquelle nous nous trouvons, je vais leur expliquer le travail de la vigne et les cycles de la vigne. Donc, si c'est au printemps, il y a les feuilles, c'est assez logique. Si c'est à l'automne, si c'est pendant les vendanges, ou qu'il y a les couleurs de l'automne, je vais partir de ce point de départ pour leur faire une année dans la vigne. Et donc tout leur expliquer. Ensuite, on va faire un arrêt pour un moment de convivialité ou un temps libre et on fait une dégustation. Et là, c'est pareil, la dégustation, je l'anime très souvent pour leur donner une approche un petit peu des vins, chacun avec leur sensibilité et de leur dire, bah voilà, on peut ressentir ça, on peut ressentir ça. Si vous ne le ressentez pas, c'est pas grave. C'est le moment qui est important, plus que l'expérience ou les savoirs.
Des émotions.
Exactement. Le point central, on va dire, pour moi, dans mes visites, c'est l'émotion. Parce que tout ce que je peux raconter, en une heure, en deux heures ou même en quatre heures, ça ne m'a pas pris quatre heures pour l'apprendre. C'est des années de travail. C'est comme une collecte d'informations qui se retrouve à ce moment-là. Et donc, mes visiteurs ne se souviennent pas, ne peuvent pas se souvenir de toutes les informations qu'on va leur donner en quatre heures. Mais par contre, les émotions, les sensations qu'ils ont eues pendant cette visite, ça, ils s'en souviendront.
Justement, ce qui reste, utilise des mots importants, émotions, sensations. Et selon toi, quelles sont les qualités essentielles justement pour être un bon guide conférencier ?
Premièrement, aimer les gens. c'est la base. C'est vraiment aimer les gens, être curieux aussi. Parce que quand on est guide, on se forme en permanence. On apprend des nouvelles choses, on va vers des nouveaux thèmes, on est très curieux. Et puis, peut-être un peu de diplomatie aussi parfois. Parce qu'en général, on est avec des personnes qui sont dans un temps libre, dans un temps agréable. Mais étant donné la diversité des caractères, il faut parfois s'adapter aussi à des remarques, à des commentaires et puis savoir mener un groupe. C'est-à-dire qu'il faut être leader, même si dans nos vies personnelles, on ne l'est pas forcément, à ce moment-là, il faut qu'on amène les gens là où on a envie de les emmener. Et il faut absolument que personne ne prenne notre place dans la visite.
Et en préparant l'interview, c'est vrai que je me suis demandé, quand on est guide conférencier, est-ce qu'on doit tout connaître un peu ou plutôt très bien connaître un territoire en particulier? Est-ce qu'on doit être un peu touche-à-tout ou au contraire, on doit être spécialisé sur un territoire?
Alors, je vais citer une de mes collègues qui dit que quand on est guide conférencier, on est généraliste en tout et spécialiste en rien. Et ça résume parfaitement la vérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux parler du vin, par contre, je ne sais pas le faire. Je peux parler de l'architecture, du 19e siècle, du 15e siècle. Je peux parler de la reproduction des escargots, puisque j'ai fait de la traduction dans des escargotières. Comment est-ce qu'on élève un poulet de Bresse? Comment est-ce qu'on cuisine chez Georges Blanc? Mais par contre, ça ne va pas plus loin. On est plutôt dans la théorie, nous, et pas forcément dans la pratique.
Je me demandais aussi si c'est un métier qui change beaucoup selon les régions et les territoires où tu l'exerces.
Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, depuis 13 ans, je reste dans cette région-là, c'est-à-dire entre Lyon et Beaune, on va dire. Il y a peut-être des différences si on se trouve à la campagne ou en ville. C'est-à-dire que, par exemple, dans une ville, on peut très facilement parcourir un territoire, avoir une cohérence à pied, alors que quand on est à la campagne, soit on fait une visite courte sur site pendant une heure ou deux, soit on doit être véhiculé. Donc, c'est peut-être pour moi cette différence-là où on appréhende le territoire d'une manière vraiment différente.
Et qu'est-ce qui fait la singularité d'un guide conférencier ? Est-ce qu'on se définit plutôt justement par une spécialisation, par un territoire, par une personnalité ?
C'est vraiment la personnalité, c'est-à-dire que le même lieu, tu peux le visiter avec 15 personnes différentes, le lieu ne changera pas, les informations fondamentales ne changeront pas. Par contre, la sensibilité changera. C'est-à-dire que tu n'auras pas forcément les mêmes arguments. Et souvent, on en discute avec des collègues où on se rend compte que, par exemple, Cluny, c'est un lieu qui est hautement spirituel, on peut l'aborder sous plein d'angles différents, sous l'architecture romane, les moines, leur relation avec tous les seigneurs des environs. Et quand on en discute avec des collègues, on se dit « Ah bah moi, je dis pas ça comme ça ». Ou « Ah bah d'accord, bah moi ça j'en parle jamais ». Et en fait, on n'a pas du tout la même sensibilité, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est des médiateurs et des passeurs d'informations.
Des conteurs un peu.
C'est ça, on est des conteurs et qui chacun avec son ressenti, son vécu, sa sensibilité, va transmettre des informations et va aussi transmettre l'amour des lieux qu'il fait visiter.
Est-ce que tu fais partie des guides qui ont une sorte d'objet totem type parapluie pour être repéré par son groupe ?
Absolument pas.
Il n'y a pas un petit truc à toi ?
Non, mais alors j'ai très souvent des vêtements à fleurs de couleur vive ou avec des motifs. Et en général, c'est pas possible de me perdre.
C'est voulu ?
C'est voulu, c'est aussi...
C'est pratique, du coup.
C'est pratique et c'est aussi un goût personnel pour ces motifs-là.
Tout de suite, c'est le moment musique de l'émission avec un morceau choisi spécialement par Perrine. On l'écoute et on revient juste après.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours.
Je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique c'est un bon gagne-pain, où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas, et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre, si tu veux, je t'en laisse, mais échange de mon procédé, si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu, ben nous serons les bienvenus.
Ça je ne l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Je ne sais pas où je vais,
je ne sais pas
où je vais,
je ne sais pas
s'il le savait.
Mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su.
Calade. Et tu fais quoi dans la vie ?
De retour dans « Et tu fais quoi dans la vie ?» en compagnie de Perrine qui nous parle de son métier de guide conférencière. Alors on a parlé un peu de ton parcours, de ton quotidien et on va continuer à entrer dans les coulisses de ton métier. Est-ce qu'il y a du jargon, du vocabulaire un peu propre à ce métier-là ?
Pas vraiment, parce que notre but c'est de vulgariser. Donc, il faut qu'on soit le plus précis, le plus simple, enfin, on va dire, dans les explications, pour que ce soit compréhensible par tout le monde.
Il n'y a pas des outils, des choses que vous avez en commun d'un guide à l'autre ?
Les livres. Enfin, et puis alors, oui, je dis les livres, mais aujourd'hui, il y a Internet, depuis un petit moment quand même, qui est super pratique.
Après, les encyclopédies.
C'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu traditionnelle de ce point de vue-là, c'est-à-dire que pour moi, le livre, c'est le Graal. Et que les informations qui sont dans un livre ont été vérifiées et il y a peut-être moins d'erreurs, on va dire, que sur Internet, même si je fais beaucoup de recherches sur Internet aussi.
Est-ce qu'il y a une visite, un lieu ou un moment qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière ?
Alors, les lieux, il y en a plusieurs. Fléchère en premier, enfin au-dessus de tous, parce qu'en fait, c'est là que j'ai appris à être guide. C'est un lieu que j'aime particulièrement, parce que c'est beau, parce que c'est apaisant, parce que c'est agréable.
Tu peux nous indiquer où c'est exactement ?
C'est à Farin, le château de Fléchère, qui appartient à Marc Simonet Langlard et Pierre Almendros, et qu'il restaure depuis 1998 avec un goût absolument incroyable, où on s'y sent bien, en fait, on se dit qu'on pourrait vivre ici. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit pour un château, donc c'est à taille humaine, ça reste à taille humaine. C'est vraiment un lieu qui me plaît beaucoup. Et à un moment, c'était aussi il y a quelques années quand j'accompagnais des voyages scolaires à l'étranger et un jour il y a un collégien qui me dit oh là là franchement ma vie est parfaite j'ai vu Big Ben aujourd'hui et en fait je me suis dit bah voilà en fait je sais pourquoi je fais ce métier là c'est pour rendre les gens heureux mais vraiment en fait pour moi c'est presque le but ultime c'est dire bah voilà on a passé un bon moment merci on est content et voilà pour moi le job est fait de ce côté là j'en ai des centaines c'est à dire que les gens sont contents en général de visiter un endroit d'approcher la culture. Même si on a, même avec les Européens, on se ressemble beaucoup, il y a quand même des différences. Donc c'est aussi expliquer comment nous on vit ici, c'est tout ça.
Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?
La diversité. C'est-à-dire être dans des lieux différents tous les jours. C'est qu'un jour, je peux être dans le Beaujolais à parler de géologie, le lendemain, faire une dégustation en Côte de Beaune, faire visiter les hospices, puis aller à Lyon, le monastère royal de Broux, Cluny. Et c'est la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennui.
Tu construis tes circuits.
Je construis mes circuits, je construis mes visites aussi. Après, il y a beaucoup d'agences avec lesquelles je travaille où le circuit est déjà monté. Ça fonctionne aussi très bien. Et c'est vraiment ça. Et puis après, c'est la rencontre. Pour moi, c'est aussi la rencontre avec les gens.
Et à l'inverse, quelles sont les idées reçues ou les aspects un peu moins visibles de ton métier ?
Alors, les aspects moins visibles, ce serait le temps de recherche. C'est-à-dire que notre job, c'est aussi de rendre très facile quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut gérer un groupe et pendant qu'on parle, il faut avoir l'œil sur les gens pour voir si tout le monde va bien déjà et ensuite voir si on arrive à les captiver. Et que si on n'arrive pas à les captiver, on voit qu'on perd leur attention, les rattraper. Parce qu'une fois qu'on les a perdus, c'est trop tard. Mais comment est-ce qu'on peut les rattraper et en essayant d'avoir un virage dans notre discours et pour que ça leur plaise encore ? Donc c'est ça, c'est tout le travail qu'on peut avoir en amont ou encore le travail de psychologie, j'allais dire, de voir comment les gens vivent la visite. Et ensuite, une idée reçue, c'est qu'on est des personnes pénibles. C'est-à-dire que quand on parle de guide conférencier, alors déjà, c'est un titre, on dirait presque un titre. Guide conférencier, ça sonne d'une manière très officielle, très...
Oui, c'est ce que je te disais au début, hein, qu'à côté chic.
C'est ça, exactement. On peut être très chic en étant très fun et très sympa. C'est-à-dire qu'un guide qui déroule une série de dates d'une voix monocorde comme ça, ça n'existe quasiment plus. La plupart, on est là parce qu'on a envie. Parce qu'on aime le métier, parce qu'on aime... Alors, je ne dis pas que ceux qui font ça n'aiment pas leur métier, mais
c'est-à-dire... Notre époque, peut-être.
Exactement. Et qu'on est là pour s'adapter aussi au public. Donc, c'est vraiment cette adaptabilité qu'on ne voit pas souvent. Une des idées reçues, c'est que ce n'est pas un vrai métier. Alors, maintenant que je vieillis un peu, on ne me le demande plus. Mais avant, on me demandait très souvent si c'était mon vrai métier. Je disais, bah oui, c'est mon vrai métier.
Dans les questions qu'on te pose le plus souvent quand tu dis guide conférencière, c'est ça, on te demandait si c'était ton activité principale.
C'est ça.
Ah ouais.
Alors de moins en moins. Quand on a 30 ans, 25 ans, on le demande beaucoup. Après, de moins en moins. Mais c'est vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que c'est plus vu comme un hobby, comme un passe-temps, que comme un métier.
Parce que c'est vrai qu'on se demande finalement comment vous faites votre clientèle aussi. Est-ce que vous avez des fidèles ? Ça doit pas être, c'est un travail aussi un peu de prospection, j'imagine.
Ça dépend quel type de public tu veux toucher. C'est-à-dire que si tu es plutôt sur des publics particuliers, oui, c'est de la prospection, c'est beaucoup de communication. Après, en travaillant beaucoup avec des groupes ou avec des agences t'amènent les clients et t'appellent en te disant, bah voilà, j'ai un groupe qui veut visiter tel lieu, tel jour, est-ce que tu es disponible ?
Il faut quand même être identifié et reconnu à ce niveau-là.
Oui, mais c'est aussi un moyen de garder un niveau de compétence. C'est-à-dire qu'on n'a pas de compte à rendre à un chef, souvent parce qu'on est indépendant pour la plupart des guides, mais par contre, on doit rendre des comptes à nos clients. Et si on n'est pas bon, le retour client ne sera pas bon. Et donc, on n'aura plus de boulot derrière. Donc, il faut vraiment donner. Enfin, c'est aussi du don de soi. De temps en temps, c'est beaucoup d'énergie. Même si on n'est pas comme les maçons, on ne porte pas des moellons, on ne brasse pas du béton. Mais par contre, c'est beaucoup d'attention et de concentration.
L'univers du tourisme a bien évolué ces dernières années. Et c'est vrai que justement, les façons de voyager ont évolué. On parlait des attentes du public, des gens, du fait qu'il faille s'adapter et que le digital aussi est très présent. Est-ce que ces évolutions du tourisme, tu les as ressenties concrètement sur le terrain? Et qu'est-ce qui a le plus changé finalement?
Très franchement, depuis 13 ans, pas tant que ça. Je travaille toujours avec les mêmes agences depuis le début. J'accueille toujours des visiteurs. Mon discours a évolué parce qu'en fait, les connaissances ont évolué. Il y a peut-être le travail avec les plateformes. Ou parfois, on peut réserver. Pour l'instant, moi, je suis très peu présente sur les plateformes. Je suis présente sur une, mais j'ai dû faire en 4 ans 2 visites avec eux. Donc, j'ai suffisamment de travail avec des groupes, avec des agences réceptives, pour ne pas forcément avoir besoin de m'inscrire sur ces plateformes. Alors que j'ai des collègues qui, eux, ne travaillent qu'avec des particuliers et qu'avec des plateformes. C'est aussi un peu, encore une fois, là où le vent nous mène, là où on a envie d'aller. Soit on est plus à l'aise avec des petits groupes, avec des grands groupes. C'est parfois des opportunités aussi. Et on est là au bon moment pour prendre en charge un grand groupe, et puis on nous rappelle, etc. Et ça nous apporte du travail comme ça.
Donc tu penses que ton métier, ça sera le même dans 10 ans ?
Je pense. Fondamentalement, oui, ce sera le même. Peut-être qu'on voyagera de manière différente. Et puis peut-être que les attentes seront différentes aussi. Parce que c'est plus... On répond aussi aux attentes des visiteurs. C'est-à-dire que, par exemple, les questions d'il y a 10 ans ne sont pas forcément les questions d'aujourd'hui. Et qu'on ne va pas forcément avoir exactement le même contenu. Donc il y a aussi cette évolution où on doit toujours être à la page pour être capable de répondre à nos clients.
Et une visite réussie, c'est quoi pour toi ?
C'est quand les gens sont contents.
Tout simplement.
Tout simplement, et qui me disent « Eh ben, on a passé un super moment. » Parce que toutes les connaissances, ils peuvent les retrouver ailleurs. Enfin, j'ai rien inventé dans mes discours. Mais le sentiment de plénitude, on va dire, c'est quand ils me disent « Bah merci, on a passé un bon moment. » Et ben là, c'est bon.
Pour terminer, je te propose un petit jeu. Donc des phrases en vrac que je t'invite à compléter. C'est parti ?
Vas-y.
Tu sais que tu es vraiment guide conférencier quand...
Les gens rient à tes blagues.
La question que j'adore pendant les visites, c'est...
Oui, mais... Qui amène plein d'autres choses derrière.
Je sens que le groupe est avec moi quand...
Quand il me regarde.
Et à quelqu'un qui rêverait de devenir guide conférencier, tu lui dirais quoi ?
D'aimer les autres.
Merci Perrine pour ce partage d'expérience et merci de nous avoir écoutés dans Et tu fais quoi dans la vie ? À très vite pour une nouvelle rencontre.
Calade.
Et tu fais quoi dans la vie ?
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.